émission, la RDC a officiellement saisi la semaine dernière la Cour internationale de la justice contre le Rwanda. Les représentants de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies a fait l'annonce de cette nouvelle procédure engagée par Kinshasa vendredi 27 juin au cours de la réunion sur la situation de la République démocratique du Congo. La RDC accuse le Rwanda des violations de plusieurs conventions internationales. Et cette annonce a fait réagir un avocat international congolais qui salue cette action de la RDC contre le Rwanda. Quelle est-il faire de cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de la justice? C'est l'objet du débat dès ce soir et nous recevons dans cette émission ici au studio Tshibangu Kalala, professeur de droit international et spécialiste en droit public. Il est un des anciens avocats ayant plaidé dans l'affaire RDC contre l'Ouganda à la Cour internationale de la justice. Il est aussi auteur de l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitiques et droit international ». Bonsoir, professeur Tshibangu Kalala.
Bonsoir, Guy Maté.
En ligne, Monseigneur Pax André-Marie Kito Masimango, il est coordonnateur national de la Coalition nationale pour la CPI-RDC. Il est aussi coprésident du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités et aussi coordonnateur régional d'Afrique de la Coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Bonsoir, Monseigneur Pax André-Marie Kito Masimango. Apparemment, il n'est pas encore là. Et aussi en ligne, Rigen Miviri, il est avocat, il est chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Bonsoir, Rigen Miviri.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous l'avons dit, la RDC a saisi officiellement la Cour internationale de la justice contre le Rwanda. Les représentants de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé cette nouvelle procédure engagée par Kinshasa vendredi au cours de la réunion sur la situation de la République démocratique du Congo. La RDC accuse le Rwanda des violations de plusieurs conventions internationales. On écoute l'ambassadeur Zeno Mukongo Ngai dans cet extrait nous proposé par Lievin Mwinga.
La République démocratique du Congo informe le Conseil qu'elle a déposé ce jour une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice contre la République du Rwanda. Par cette procédure, la République démocratique du Congo demande à la Cour de constater la responsabilité internationale du Rwanda pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que de la Convention contre la torture. La République démocratique du Congo demande aussi la cessation des faits internationalement illicites, des garanties de non-répétition et une réparation intégrale à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux victimes.
En réaction, Maître Paul Okito, avocat international, salue cette démarche judiciaire du gouvernement congolais contre le régime de Kigali à la Cour internationale de justice. Et on écoute l'avocat international Paul Okito, il est au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
J'approuve la démarche empruntée par le gouvernement congolais parce que nous savons que ça fait près de 3 décennies que le Rwanda viole les droits humains et commet des crimes contre l'humanité à l'est du pays. Donc par une démarche judiciaire, nous aurons la possibilité de faire respecter les droits humains au profit de nos populations ou des victimes à l'est du pays. Parce que sans la justice, il y aura toujours la violence à l'est du pays, vu que la RDC a signé le traité de Rome et que malgré que le Rwanda n'avait pas signé ce traité, je pense que par la force de la justice, cette force peut faire cesser les violations des droits humains à l'est du pays.
Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes professeur de droit international et spécialiste en droit public. Vous êtes l'un des anciens avocats, n'est-ce pas, ayant plaidé dans l'affaire RDC contre l'Ouganda à la Cour internationale de la justice. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Comment vous analysez cette démarche de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de la justice?
Guy Maté, je tiens d'abord à vous remercier et toute la direction de notre chère radio, Radio Okapi, pour l'invitation que vous m'avez adressée aujourd'hui, pour que je puisse participer à cette émission.
Je vous en prie.
Je savais que vous étiez ici à Radio Okapi. J'étais d'excellents juristes, d'excellents journalistes. Vous êtes parmi les meilleurs journalistes que nous avons dans notre pays aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Mais je ne savais pas que vous étiez en même temps des sorciers.
C'est-à-dire
lorsque j'ai reçu le coup de téléphone de votre collègue Madimba cet après-midi à 15h, me demandant de venir animer cette émission avec vous, je me suis dit, mais c'est comme si vous saviez, c'est comme si Radio Okapi savait que la semaine prochaine, je vais prendre le vol Air Congo pour aller à Bruxelles, aller déposer le manuscrit d'un ouvrage que je viens de terminer, pour le remettre à mon éditeur pour publication d'ici septembre-octobre.
Qui parle de quoi?
Et dans cet ouvrage, justement, je consacrais beaucoup de recherches sur le contentieux international de la RDC au cours des dernières décennies. Et dans cet ouvrage, je consacrais le dernier chapitre, le chapitre 5, à l'affaire RDC contre le Rwanda, qui s'est déroulée justement devant la Cour internationale de justice de 2002 à 2006. Et donc, j'explique dans ce chapitre, dans cet ouvrage, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la RDC a échoué
contre le Rwanda.
Contre le Rwanda.
Oui.
On
rappelle que ce n'est pas la première fois que la RDC prend une telle initiative.
Justement. J'explique dans cet ouvrage, dans ce chapitre en particulier, pourquoi nous avons raté le procès contre le Rwanda en 2006, parce qu'en 2006, le 3 février 2006, la Cour internationale juste a rendu un arrêt.
En faveur du Rwanda.
Un arrêt qui rejetait notre démarche, qui rejetait notre requête, en estimant qu'elle n'était pas compétente pour examiner toutes les demandes articulées par la RDC. Nous sommes en fait aujourd'hui, Imate, à la troisième tentative. La première tentative, c'était en 1998. La deuxième tentative, c'était en 2002. Et la troisième tentative, c'est celle-ci. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bon. Donc, mon commentaire est que c'est une bonne chose. Il fallait ouvrir ce front judiciaire contre le Rwanda. Nous avons réussi à faire condamner l'Ouganda. L'Ouganda qui a commis des atrocités énormes, comme le Rwanda. Rappelez-vous qu'au mois de juin 2000, les deux armées rwandaises et ougandaises se sont battues dans la ville de Kisangani. Des milliers de morts, des destructions.
La guerre des six jours.
La guerre des six jours. Du 6 mai au 11 mai 2000. Juin 2000. Et donc, on a réussi à faire condamner l'Ouganda et pas le Rwanda qui a échappé. Qui avait massacré des gens par des milliers et a continué à le faire. Donc le Rwanda a vécu pendant un temps dans l'impunité totale. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc les gens qui sont massacrés dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, par les troupes rwandaises, c'est comme des mouches ou des insectes qu'on vient tuer comme ça et il n'y a pas de conséquences. Et donc je salue l'action entreprise maintenant par le gouvernement pour faire en sorte que le Rwanda puisse répondre de ses crimes, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, de massacres épouvantables, et que le Rwanda soit condamné à indemniser ses victimes, comme nous l'avons fait à l'égard de l'Ouganda.
Voilà. Donc, dans cette requête, la RDC demande à la Cour internationale de la justice de constater la responsabilité internationale du Rwanda pour violation 1. De la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 2. De la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 3. De la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme ainsi que de la Convention contre la torture. Peut-on dire que tout cela résume les actions commises par les Rwandais contre la RDC pendant plus de 30 ans?
Nous sommes au cœur, si vous voulez, de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. Les conventions que vous citez là font partie de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. En 2002-2006, la RDC avait déjà invoqué la violation des mêmes conventions. En 2002-2006. Je vois que le gouvernement revient encore avec la même argumentation contre ces instruments.
Qui avait été rejeté à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était rejeté. Bon, j'ose espérer que cette fois-ci, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas aller commenter la requête qui vient à peine d'être déposée. L'affaire se trouve en justice, devant la Cour internationale de justice. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais toujours est-il que la requête reprend justement des critiques sévères contre le Rwanda. Et depuis 2006, ça fait là bientôt 20 ans, Guimaté. Donc le Rwanda n'a fait que commettre des crimes, ne fait que violer justement ces conventions internationales que vous venez d'énumérer. Et sans conséquence, sans sanction, sans impunité totale. Vous comprenez? Et donc maintenant là, il faut faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne. Et j'espère qu'on... Je dirai un mot là-dessus dans quelques minutes. Et donc, je salue d'abord l'action du gouvernement. L'ouverture de ce front judiciaire devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Qui doit être puni, qui doit réparer les crimes abominables qu'il est en train de commettre dans notre pays où nos populations souffrent, sont massacrées par les troupes rwandaises de manière vraiment dans l'impunité la plus totale.
Voilà, dans cette requête, la RDC demande aussi la cessation des faits internationalement illicites. Il s'agit de quels faits, professeur?
Mais justement, c'est ça, ce sont les massacres. C'est ça, les faits internationalement illicites. Les faits, donc, ce sont les infractions, les massacres, les tueries, les violations, les atteintes à l'intégrité physique, les arrestations arbitraires. Et donc, ça, ce sont ces faits-là qui constituent des crimes pour lesquels le Rwanda est poursuivi. Et justement, le moment viendra, le gouvernement va produire les documents, donc les preuves, on dirait un mot là-dessus, les preuves qui établissent que le Rwanda a commis tel fait criminel à tel endroit, à tel juge. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, on a enterré des gens dans des fosses communes, etc. Et c'est le Rwanda qui est responsable de ces infractions internationales et doit être condamné à réparer, comme dans la requête, notre ambassadeur à New York l'a répété. Et donc, il faut qu'on puisse indemniser les victimes, mais en même temps aussi indemniser l'État congolais en tant que tel.
Parce que l'émission est aussi pédagogique, professeur. Pourquoi la RDC a saisi la Cour internationale de la justice, là où c'est plutôt les États qui sont partis, au lieu de mener cette démarche au niveau de la Cour pénale internationale, étant donné que là, on peut espérer, n'est-ce pas, tenir compte des personnes victimes?
Oui, il y a la différence entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Les deux cours sont à La Haye, aux Pays-Bas.
Dans la même pourquoi ville. Avoir opté seulement pour la Cour internationale de la justice?
Pourquoi? Parce que la Cour pénale internationale ne juge pas les États. La Cour pénale internationale juge les individus, comme les Katanga, les Taganda et les autres de Ngudjolo. L'autre là, Thomas Lubanga, ce sont des individus. Même chose comme l'ancien président de Côte d'Ivoire, Babo, Laurent Babo. Ça, ce sont des individus. Alors, ça, c'est de la compétence de la Cour pénale internationale. Les États ne peuvent pas comparaître devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est pour les individus qui sont suspectés d'avoir commis des crimes, des infractions. Par exemple, j'espère que la Cour pénale internationale, qui est en train de mener aussi des enquêtes ici dans notre pays, on pourra mettre la main sur les généraux rwandais, peut-être Kagame lui-même, s'il y a des preuves qu'ils sont impliqués dans les massacres à l'est de notre pays. Mais la CIJ, la Cour internationale de justice, c'est uniquement pour les États qui comparaissent là-bas. Mais les victimes ne seront pas exclues, parce que devant la Cour pénale internationale, on va demander des réparations, des dommages et intérêts pour les Congolais qui sont tués. C'est le cas avec l'Ouganda. L'Ouganda a sorti d'argent, a été condamné à... Non, nous allons faire la démonstration du nombre de victimes. On a tué combien de gens? Depuis 2000. Depuis 2000. Il faut revenir à l'affaire de Kisangani. Le Rwanda doit être tenu responsable déjà depuis le début de la guerre civile, depuis la guerre du RCD, depuis 1996, jusqu'en 2000. Tout ce qui s'est passé à Kisangani en 2000. Il faut rassembler toutes ces preuves, ces massacres, pour que le Rwanda puisse répondre de ces crimes-là. Voyez-vous? Et il y aura de l'argent. Si nous parvenons justement à faire condamner le Rwanda va verser des réparations financières et avec cet argent, justement, on va remettre aussi aux victimes, à toutes les victimes de toutes les guerres que le Rwanda a imposées à notre pays. Donc, il n'y a pas de problème.
Merci. De ce côté-là. Merci, professeur Tibankalala. Monseigneur Pax André-Marie Kito Masimango, vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour la CPI-RDC. Vous êtes aussi co-président du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités. Vous êtes aussi coordonnateur régional Afrique de la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Est-ce que vous êtes là, Monseigneur? Monseigneur Parks, est-ce que vous êtes là?
Oui, allô? Vous me suivez bien, je pense, mais c'est le journaliste.
Oh, très très bien. Bonsoir, Monseigneur.
Oui, je suis heureux d'intervenir à cette émission. Je vous remercie pour votre invitation.
Voilà, Monseigneur.
Je voudrais clarifier...
Monseigneur,
vous me suivez?
Monseigneur, est-ce que... Oui, je vous entends. Est-ce que vous me suivez, vous m'écoutez?
Oui, je vous suis très bien.
Voilà. Parfait. Donc, j'ai dit bonsoir parce qu'on n'a pas eu le temps de se saluer au début de l'émission.
Merci beaucoup, merci.
Voilà, alors comment vous réagissez à cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de la justice?
Ok, je voudrais saluer mon prédécesseur, le professeur qui venait de faire des
commentaires. Professeur Chibangu Kalala.
Professeur Chibangu, oui, je le salue. Alors, il vient de faire des commentaires assez importants. Il a déjà retracé un peu l'historique de notre combat de la RDC contre le Rwanda au niveau de la Cour internationale de la justice, où ce n'est pas la première fois que le Congo fasse une action à la Cour internationale de justice. C'est bon, tous ces sentiments qui nous animent nous tous, et c'est notre combat avec la société civile nationale, où nous travaillons pour faire en sorte que les victimes soient rétablies dans leurs droits, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée un peu de partout, et que les responsables de tous les crimes internationaux commis en République démocratique du Congo puissent quand même répondre de leurs responsabilités devant la justice, en vue de garantir aux victimes en particulier et toute la population congolaise en général une garantie de non-répétition, puisqu'il faudra rappeler que ces cycles de violence puissent reprendre demain ou après-demain. Et voilà, ça c'est un sentiment positif qui nous anime nous tous. Mais s'il faudra revenir maintenant à la requête qui est déposée depuis quelques jours par la RDC, la troisième requête à la Cour internationale de justice, mon point de vue semblait c'est pratiquement pareil avec tout ce qui le point de vue de plusieurs leaders de la société civile, où nous nous posons la question sur la question de la pertinence. Et la pertinence de cette requête. Mais la pertinence de cette requête, ça nous renvoie à voir, à jeter un coup d'œil par rapport à ce qui était les éléments qui constituent les requêtes précédentes, mais également, il faudrait voir au deuxième plan la réponse de la Cour internationale de justice pour que la RDC puisse voir comment faire une autre stratégie. Et par rapport au contenu, aux éléments qui étaient lancés, je pense que le professeur Chibangu a bien dit beaucoup de choses, et c'est pareil presque, mais à part un élément nouveau que l'RDC venait d'ajouter, c'est celui de Yuskogas. Et en parlant de Yuskogas, qui est une question assez fondamentale, et en droit, il revient de se poser la question si l'efficacité de ce nouveau élément par rapport aux dispositions pertinentes de la Cour internationale de justice. Ça, c'est le premier élément. Donc, le nouvel élément, il ne s'agit que de jus cogens sur lequel on pourrait s'appuyer dans la suite de notre argumentaire. Et pour le deuxième aspect, la question liée aux autres actions de la Cour internationale de justice. Et nous pensons que, nous soulignons que la Cour internationale de justice avait déjà répondu la RDC par rapport à tous ces éléments. Et sa conclusion était plus simple. La Cour internationale de justice s'est reconnue incompétente à pouvoir statuer sur la situation pour la simple raison que le Rwanda n'avait pas adhéré à la convention. En fait, le Rwanda, lorsqu'elle a adhéré à la Convention pour la répression du crime de génocide, le Rwanda avait formulé une réserve importante sur l'article 9. Et là, le Rwanda avait reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, mais dans des cas bien spécifiques relatifs à l'interprétation, l'application, l'exécution de cette convention, le Rwanda n'avait pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Et voilà, ça c'était déjà une réponse, et cette réponse de la Cour constitue déjà une jurisprudence depuis l'arrêt de 2006. Et aujourd'hui nous sommes à 20 ans. Je ne sais pas moi si à partir de ces 20 ans, on pourrait nous dire qu'il y a des éléments nouveaux qui puissent renverser cette jurisprudence de la Cour internationale de justice. Ça, c'est la métienne.
Voilà, monseigneur, parce qu'il y a, il y a eu cette jurisprudence, qu'est-ce qui aurait été logique pour la RDC?
Oui, ce qui était logique pour la RDC, ce n'est pas de faire une action qui a un caractère purement politique. Et cela, ça distrait les victimes. Ça nous distrait, nous, à la société civile. La logique importante, c'est d'abord que la RDC devra avancer avec ces réformes des droits, en particulier la mise en place des chambres mixtes spécialisées, ou encore, puisqu'on a pris cette option, par rapport à celle de la Cour pénale spéciale que les gens réclament pour l'RDC, qui n'est pas évidente au regard de toutes les réalités et les discussions antérieures que nous, en particulier de la société civile, nous avons eues avec les Nations Unies et avec d'autres pays, États qui sont disposés à soutenir la lutte contre l'impunité en RDC. Est-ce que la RDC devra mettre en place cela? Mais il y a également la question de la diplomatie de la RDC. Et nous pensons qu'avant de lancer ce débat, la RDC devrait d'abord fournir sa diplomatie pour faire en sorte que, au niveau des Nations Unies, on puisse d'abord reconnaître l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais c'est là il y a encore un souci de la diplomatie. On parle bien, on veut aller toujours encore donner de la matière, donner du travail à la Cour internationale de justice. Oui, c'est bon. Mais il faudra se dire que ça risque d'être un forum shopping de trop.
Et donc, vous n'êtes pas certain que cette fois-ci sera la bonne. Vous n'êtes pas certain. On risque de revenir à la même situation de 98-2002. La RDC saisit la Cour, après la Cour, cette Cour rejette la requête de la RDC.
Oui, tout à fait, ça a été rejeté, et je pense que, comme je parle en matière de la jurisprudence, et ça sera la même réponse qui sera là. Et j'étais en train de vouloir démontrer que, même si on a ajouté l'élément nouveau, c'est les jus cogens, mais les jus cogens ne pourra pas abroger la question de la compétence de la Cour. Oui, le jus cogens est reconnu par le droit international, et en tant que tel, le droit international doit agir, mais le premier problème pour que la Cour puisse statuer sur le fond de Yuskogans, la Cour devrait d'abord commencer à statuer sur sa compétence. Et la compétence au niveau de la Cour est tributaire au consentement des États. On ne peut pas imposer à un État de comparaître, de reconnaître la Cour, alors que l'État ne fait pas partie au traité qui reconnaît cette compétence de la Cour. Et là, c'est un problème fondamental.
Et donc, il y a des préalables, qui devraient être accomplis d'abord avant que la RDC ne puisse initier cette démarche, c'est ça?
Tout à fait, il faudra dire à ce terme qu'il y a des préalables qui sont plus simples, et c'est visible, puisque quel est le préalable? Le préalable, c'est en rapport avec, l'accusé, qui est le Rwanda. Il faudra voir et entendre le jour que le Rwanda pourra ratifier, reconnaître cette compétence de la Cour par rapport à cette exigence qui est fondamentale pour que la Cour puisse actionner sa juridiction. Mais dans le cas contraire, on ne le ferait pas. Ça, c'est une question fondamentale en droit international, puisque le droit international, c'est un droit procédural. Et en matière de procédure, pour arriver à B, il faut passer obligatoirement par A. Et les A, c'est d'abord la compétence avant d'examiner maintenant la question, du moins, des fonds par rapport à toute cette responsabilité, comme ça a été le cas du Rwanda et de l'Ouganda. Mais c'est bien, puisqu'on fait l'action, peut-être on voudrait avoir encore de l'argent, au regard de l'argent qui alimente la Fribao, qui est versé par l'Ouganda. Ça, c'est une très bonne chose. Et nous tous, nous le souhaitons pour que les victimes soient rétablies dans toute leur dignité et qu'ils puissent être reconnus dans leurs droits. Mais il faudra faire des choses d'une manière, permettez-moi le terme, d'une manière quand même professionnelle du droit. Un pays comme le Congo, qui a plusieurs facultés de droit, qui a des spécialistes en toute matière de droit possible, et je ne pensais pas comment on pouvait encourager une telle action qui se révèle vraiment de caractère politique que juridique. Hein, là où quiconque connaît quand même quels sont les effets d'une jurisprudence encore de la même juridiction. Et là, le préalable, comme je le disais chez nous, il n'y a même pas de préalable, s'il faudra parler à ce terme, puisqu'il y a une jurisprudence qui est là, et cette jurisprudence de la Cour est pour l'éternité, et la Cour n'a pas encore pris une autre décision contraire. Il faudrait se rassurer. Est-ce que le Rwanda reconnaît maintenant la compétence de la Cour en cette matière avant de passer à cette troisième action?
Merci, alors, Monseigneur voilà. Pax. Merci, on vous donne la parole dans cette émission. Oui, on va vous redonner la parole, hein, le temps de donner la parole à Maître Rigen. Maître Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle. Quelle lecture vous faites de cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de justice?
Oui, je voudrais commencer par saluer deux co-débatteurs, notamment le prof Chibangu et Monseigneur. Et je voudrais aussi dire que je rejoins une partie de l'analyse qui a été faite avant, et notamment j'ai aussi une nuance en ce qui concerne la pertinence ou même peut-être les chances de réussite de cette procédure. Donc, c'est sûr que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour et ainsi, dans l'arrêt passé, la Cour s'était déclarée incompétente à l'égard du Rwanda, mais compétente à ce qui concerne l'Ouganda. C'est pour ça que la procédure pour l'Ouganda avait avancé. Donc, et cet obstacle juridique est malheureusement encore là, ce qui m'amène à penser que les juristes qui ont conseillé la République pour dans cette procédure les savaient aussi et je pense qu'ils l'ont fait en essayant de plutôt essayer d'avoir un autre gain. Je pense que c'est les gains politiques. Donc j'ai comme l'impression que bien sûr on utilise les outils juridiques mais pour un gain politique. Et je pense que c'est justifiable étant donné la réalité du terrain, sachant que les obstacles juridiques sont là, mais quand même savoir tout simplement qu'au moins il y a eu une procédure qui n'aboutisse pas ou qu'elle aboutisse, au moins on saura que il y a eu une procédure devant l'encours.
Maître Miviri, quel est le contexte politique qui peut actuellement le contexte politique qui peut influer, n'est-ce pas, sur la décision de la Cour internationale de justice?
Peut-être pas sur la question de la compétence. Je ne pense pas qu'on va la forcer de se déclarer compétente. Pourtant, du point de vue procédural, elle ne l'est pas. Mais par contre, un débat peut avoir lieu sur les agissements du Rwanda au Congo et au-delà même de la Cour. Donc, sur le plan international et ce qui peut amener parfois à des décisions unilatérales de certaines instances, que ce soit l'Union européenne, que ce soit encore une fois les Nations unies au-delà des résolutions qui ont déjà été prises ou encore plus d'autres sanctions notamment par les États-Unis. On sait aussi que cette procédure se passe dans un contexte où il y a eu des sanctions contre le Rwanda. Donc, le Congo veut mettre toutes ses chances, toutes les chances de son côté, et notamment, comme ça avait été expliqué ici, ce que, voilà, au-delà du front militaire, front politique, diplomatique, on essaie aussi le front judiciaire. Mais par contre, il faut dire aussi qu'il y a d'autres procédures qui sont en cours, notamment auprès des instances de l'EAC, à la Cour de Arusha, auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc toutes ces procédures-là contribuent tant soit peu à faire advenir la vérité, mais aussi à mener un plaidoyer sur tous les points. Et donc c'est de bonnes guerres que toutes ces procédures sont en cours, mais leur efficacité, on peut en débattre. Et sur le plan politique, il faut dire quand même que le Rwanda, en termes de publicité, c'est un coup dur pour le Rwanda de savoir qu'il y a encore une procédure à la CIJ et bien sûr l'opinion publique va se poser plus de questions et peut-être va s'intéresser aux agissements du Rwanda en RDC. Mais comme je l'ai dit et comme j'ai commencé à le dire, je suis nuancé sur les résultats, encore plus sur l'impact direct de cette procédure sur la vie de quelqu'un qui est dans la zone occupée à Goma, à Bukavu ou quelque part dans le Rutshuru.
Regan Miviri, Fariel Manassa depuis Kinshasa nous dit ceci: cette plainte traduit la volonté de la RDC de privilégier les mécanismes du droit international pour défendre sa souveraineté et obtenir une décision judiciaire sur les accusations qu'elle porte contre le Rwanda. Son issue dépendra des arguments juridiques des deux États, des preuves présentées et de la compétence reconnue de la Cour pour connaître plutôt cette affaire. Rien de mieux.
Oui, mais malheureusement, on ne pourra même pas avoir l'occasion d'aller sous le fond dans ce dossier. Et donc, ça sera beaucoup plus sur les liminaires, sur la question de la compétence. Et ce qui fait que je pense qu'il y a d'autres possibilités en droit international. Je citais des procédures qui sont en cours. Je pense qu'il y a aussi d'autres procédures possibles auprès de la CPI. Et là, par contre, il n'y a pas forcément ces obstacles juridiques. Donc, des individus, notamment, par exemple, certaines personnes qui ont été sanctionnées déjà, les éléments qui ont été mis à la disposition des instances autant internationales que nationales pour les sanctionner sont autant des faits qui peuvent permettre qu'une procédure du côté de la CPI puisse s'enclencher. Et il faut rappeler aussi que depuis quelques années, les crimes d'agression est aussi un crime qui fait partie du statut de Rome. Et donc, il y a d'autres possibilités et j'imagine que l'équipe juridique qui conseille la République s'intéresse aussi à ces procédures. Mais juste un petit mot sur la question de la justice transitionnelle ou en général de la justice internationale, aussi sur la question d'un tribunal spécial sur la RDC ou bien des chambres mixtes. Je pense que parfois on en discute beaucoup pour faire en sorte que on en discute beaucoup et on veut montrer tous les obstacles qu'il y a. Pourtant, il y a des choses qui peuvent déjà être faites. Par exemple, il y a déjà eu en fait des condamnations en RDC pour des crimes internationaux par des tribunaux congolais et notamment des tribunaux militaires en RDC. Donc on a déjà quelques instruments qui peuvent déjà être utilisés aujourd'hui. Bien sûr, peut-être plus difficile pour des personnes qui pourraient intéresser la justice mais qui sont au-delà des frontières congolaises. D'où les besoins maintenant de penser peut-être à des chambres mixtes et à intéresser les juridictions internationales pour un soutien autant logistique mais aussi peut-être dans une certaine mesure aussi un soutien politique pour permettre à ce que ces chambres mixtes soient mises en place. Et je pense que ça, c'est un autre plaidoyer que la RDC pourrait pousser et il pourrait avoir des alliés à l'international. Et je pense aussi que la société civile doit continuer sur cette lancée-là. Elle a fait ce combat depuis très longtemps et je ne pense pas qu'on devrait penser que c'est juste et inatteignable et qu'il ne faut pas le faire. Je pense que le besoin de justice
il faut
est là
oser.
Et il faut oser.
Merci. Merci, professeur Tiban Kalala. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train de nous appeler pour intervenir dans cette émission. Et vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Depuis la ville de Beni au Nord Kivu, c'est maître Fabrice Sambili. Fabrice Sambili. Ce n'est pas encore... Voilà. Professeur, est-ce que vous pouvez, en attendant qu'on puisse retrouver l'élément, est-ce que vous pouvez réagir, n'est-ce pas, aux interventions de Monseigneur Pax Kito Masimango et de Rigel Miviri, qui saluent, n'est-ce pas, l'action, mais ils estiment que... ce n'est pas très certain que cette action pourrait aboutir, n'est-ce pas, au résultat escompté.
Oui, merci. Guy Maté, je tiens à saluer aussi Monseigneur Masimango et Rigen.
C'est vrai. Rigen, je m'excuse. Rigen, apparemment, il y a un enfant qui est en train de parler dans votre, votre environnement. Essayez de fermer les micros. Voilà, allez-y. Allez-y, professeur.
Oui, je disais que je tiens d'abord à saluer aussi Monseigneur Masimango et Rigine Badiri. Je comprends leurs réserves, leurs critiques. J'en parle moi-même abondamment dans le livre qui va sortir bientôt sur l'affaire RDC au Rwanda. C'est vrai que déjà en 1999, on a déposé la première requête. Mais 2 ans après, le 15 janvier 2001, la veille de l'assassinat de Mouzé, la RDC a retiré cette requête qui était déposée contre le Rwanda. Pourquoi ? Parce que le Rwanda avait soulevé des exceptions d'incompétence en disant « Mais moi, je ne veux pas comparer devant cette cour, je n'ai jamais reconnu la compétence de la CIJ. » Et devant ces arguments-là, la RDC a retiré la requête.
Est-ce que, entre-temps, les choses ont changé, les choses ont évolué ?
Maintenant, il y a eu des combats qui s'en gagnent. Déjà, en 2002, vers mai 2002, les troupes rwandaises ont encore massacré les gens qui s'en gagnent. C'est ainsi, je ne vais pas donner les détails parce qu'on avait pas beaucoup de temps, j'en parle dans le livre. Et c'est en ce moment-là que la RDC a déposé la deuxième requête, le 28 mai 2002. Mais malheureusement, 4 ans après, en 2006, le 3 février 2006, la Cour a rejeté cette deuxième requête en disant qu'elle n'est pas compétente. Bon. J'aimerais dire à Monseigneur que la question de jus cogens, pour les auditeurs, jus cogens signifie les règles de droit international qui sont, auxquelles on ne peut pas apporter des dérogations, des exceptions. Donc c'est ça le jus cogens. Monseigneur, sachez que même cet argument de jus cogens avait déjà été utilisé en 2002-2006 par la RDC.
Donc c'est pas un nouvel élément.
C'est pas un élément nouveau, parce que l'argument était là, j'en parle abondamment dans le livre. Mais je ne vais pas aller dans les détails de tout ça, mais la Cour avait rejeté, à tort ou à raison, mais en fait, la Cour avait rejeté cela, la compétence. Maintenant, nous sommes à la troisième requête qui vient d'être déposée. Je vous ai dit que je ne vais pas faire des commentaires sur le contenu de cette requête, sur les dispositions, les précautions qui auraient été prises par le gouvernement, tenant compte, justement, de la décision jurisprudentielle de la Cour de 2006. On ne va pas aborder ça. Mais toujours est-il qu'il y a une première étape qu'il faut franchir. C'est l'étape de la compétence et de la recevabilité de la requête. Si on parvient à franchir cette étape-là, on va aborder le fond.
Est-ce que l'obstacle par rapport à l'étape-là, l'obstacle a été levé?
Pour le moment.
Le fait que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de cette Cour.
Mais la Cour...
Les choses ont évolué.
Mais vous comprenez bien, M. Dubaté, le Rwanda ne peut pas reconnaître la compétence de la Cour.
Alors, c'est quoi la pertinence, comme on s'est demandé, Monseigneur Pax Massimango, c'est quoi la pertinence d'une telle démarche, quand on sait que l'obstacle est toujours là?
Oui, mais il faut faire attention, parce que même si le Rwanda n'a pas reconnu formellement la compétence de la Cour, il y a des clauses, ce qu'on appelle des clauses compromissoires. C'est-à-dire qu'il y a des traités comme la Convention sur le génocide, qui prévoit que les États parties à cette convention reconnaissent la compétence de la CIJ concernant l'application ou l'interprétation de cette convention. Bon, ce débat a eu lieu déjà devant la Cour internationale de justice. Bon, mais pour le moment, nous attendons de voir comment le gouvernement a pu faire cette fois-ci pour contourner les difficultés ou les objections qui étaient soulevées à l'époque par le Rwanda par rapport à toutes ces conventions-là. Ce sont des questions techniques, on n'a pas le temps d'aborder cela, j'en parle abondamment dans le livre. Mais toujours est-il que ceux qui expriment des réserves, c'est leur droit d'exprimer des réserves. C'est un procès, on ne peut pas, dès le départ, dire qu'on va échouer, qu'on va gagner.
Il faut oser, comme l'a dit Miviri.
Le gouvernement s'est lancé dans cette bataille judiciaire contre le Rwanda. Attendons voir comment la Cour va réagir, parce que la Cour connaît très bien le dossier. Ce n'est pas nouveau pour la Cour. Hein. Les arguments avancés, ce sont les mêmes qu'en 2002-2006. Attendons voir comment ça va se passer. Mais ce qui est positif, c'est au moins c'est le combat qu'on a lancé. Donc, quel est le résultat final? Nous verrons.
Merci.
Mais au moins, la bataille est lancée, c'est déjà positif.
Merci. En attendant de retrouver l'auditeur des Béni, on va dans les Bandundu Okwilu. Pour vous, Monseigneur Pax Massimango, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bandundu dans les Kwilu.
Christian Katuta depuis Bandundu dans la province du Kwilu. Le gouvernement saisit la CIJ pendant que le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse Kinshasa de violer de manière flagrante les accords de Washington, spécialement les CONOPS. Toujours selon ces ministres, le gouvernement congolais viole les cessez-le-feu, intensifie les attaques des drones tout en refusant d'appliquer l'accord, en prenant des mesures contre les FDLR et finalement la partialité des ISA, notre médiateur, suite aux sanctions qu'il qualifie d'unilatérales. À ce stade, je n'ai qu'une seule question. Entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, qui trompe les peuples? J'ai comme l'impression que nous sommes dans un cercle vicieux, rien ne marche et que ce conflit restera sempiternel.
Monseigneur Pax André Marie Kito Massimango, votre réaction?
Oui, merci bien. Je voudrais avant peut-être d'aborder la question de l'auditeur.
Allez-y rapidement, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps, hein. On tend vers la fin de l'émission. Allez-y rapidement.
Tout à fait, oui, je comprends également que les journalistes n'est pas assez réparti pour les intervenants. Et alors, j'étais en train de dire par rapport à l'intervention tout à l'heure du professeur Tshibangu, je suis heureux qu'il nous ait rejoint pour démontrer qu'il n'y a pas de pertinence, du moins de cette action, sur des faits, puisqu'il y a des faits nouveaux par rapport à l'actuelle guerre des AFC M23, mais par rapport au droit applicable, où se trouve l'évolution du droit par rapport au droit qui était déjà dit par la Cour internationale de justice. Il n'y a pas d'évolution. On s'appuie sur quel droit nouveau. Il n'y en a pas.
Voilà. Alors, et s'il faut revenir sur la préoccupation de l'auditeur...
Ça, c'est important. Oui, si nous devons faire toujours des procédures comme ça, ça amène les gens à se détourner de l'essentiel. Et c'est une distraction pire et simple. Le peuple congolais qui est plus victime, et surtout nous qui vivons avec les victimes du jour au jour, dans ces pays à l'Est, nous n'avons plus besoin de cela. On doit focaliser les énergies et les moyens ailleurs. Je suis en train de les souligner. Et il faudra encourager le gouvernement d'intensifier d'abord sa diplomatie vis-à-vis des Nations Unies. C'est là où se pose le problème de toutes ces questions. Qu'on reconnaisse d'abord l'agression.
Merci.
Et en dehors de cela, on organise la justice répressive qui soit conforme aux normes internationales dans les pays pour donner réponse aux victimes. Alors, par rapport à la question que notre ami était en train de poser tout à l'heure ici, souvent, nous Congolais, nous parlons beaucoup du Rwanda sans voir nos responsabilités. Et pour moi, c'est du ridicule, ça me fait honte. Quand nous devons publiciter le Rwanda, c'est la scène internationale. Hein, je l'ai dit, partant de l'histoire politique du Congo et l'histoire sociologique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui ou hier qu'on a commencé à vivre à côté du Rwanda. Et ça fait une honte. Le problème, c'est la responsabilité des institutions de la République démocratique du Congo qui doivent prendre la chose au sérieux et consulter les experts à la société civile, consulter les universités.
Allô, allô?
Ce sont les universités qui donnent des recettes aux différents problèmes. Tous les pays civils au monde.
Merci.
Le plus important, c'est pas dans l'université. Et il faudrait que les gens les consultent. Les Rwandais n'ont aucun problème dans tout cela. Voyons d'abord notre responsabilité. Qu'est-ce que nous devons faire et pourquoi cette situation du Rwanda doit toujours continuer? Un grand pays comme le Congo ne peut pas tout le temps pleurnicher devant les petits Rwandais.
Merci, Monseigneur Paxé. On a compris. On prend l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma pour vous, Rigen Miviri.
Bonsoir Radio Okapi. Je suis Monsieur Moïse Safari Chougouchou depuis Goma. Cette plainte de la RDC devant la Cour internationale de justice est une offensive juridique majeure qui vise à documenter officiellement les violences du droit international et à briser l'impunité sur la scène mondiale. Cependant, pour nous qui subissons au quotidien les affres de la guerre ici à l'est de la RDC, cette démarche face au talon de la justice internationale paraît terriblement déconnectée de l'urgence humanitaire et sécuritaire du terrain. C'est un...
Oui, Maître Rigen Miviri, votre réaction?
Oui, je voudrais dire que il est clair que les gens qui sont sur le terrain ont d'autres préoccupations urgentes et je suis d'accord avec l'auditeur que c'est la question humanitaire, c'est la question de l'accès aux services de base, c'est la question de la mobilité et c'est la question de la fin tout simplement des hostilités. Et bien sûr, comme il l'a dit, les temps de la justice, il peut être long, mais il faudra qu'il arrive toujours. Donc, cette urgence-là n'annule pas le besoin de justice. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut être fait sous les fronts judiciaires, ça reste toujours important, même si, comme on l'a dit, il y a des obstacles, mais il y a aussi des opportunités, il suffit juste de les saisir.
Et quelles sont ces opportunités-là?
Oui, déjà, il y a notamment les possibilités d'utiliser les tribunaux congolais, notamment
pour, comme vous l'avez dit. Mais...
Voilà, comme je l'ai dit, mais ouais. Il y a aussi la justice internationale qui est là. Donc, par exemple, on a appris que la Cour pénale internationale avait réouvert le dossier RDC et ils ont même fait des visites sur le terrain en RDC, mais pourquoi pas au Rwanda, pourquoi pas au Burundi, pourquoi pas s'intéresser aux faits nouveaux, pourquoi pas s'intéresser aux frappes des drones qui viennent de toutes parts, de toutes les parties et qui notamment affectent les civils.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Rigan Mibiri, votre mot de la fin?
Moi, je dirais tout simplement que c'est très important qu'il y ait des initiatives sur tous les fronts et c'est, peut-être ça montre dans une certaine mesure que la question de la justice n'est pas mise au bas de l'échelle, mais en même temps, comme l'auditeur de Goma l'a dit, travaillons sur les questions urgentes et je pense que la question du cessez-le-feu reste une question très urgente et ça ne fait pas sens que malgré tous les accords qui ont été pris, qu'il y ait encore des civils congolais qui continuent à être tués.
Merci, professeur Tibankalala, c'est votre commande de la fin aussi. Peut-on espérer que cette démarche de la RDC pourra aboutir cette fois-ci?
Oui, pour moi, l'ouverture du front judiciaire contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice, qui est la Cour la plus prestigieuse du monde, c'est une bonne chose. C'est vrai, connaissant moi-même le dossier, je vous ai dit du livre qui va sortir bientôt contre le Rwanda, je sais qu'il y a des obstacles d'ordre juridique. Et d'abord, la reconnaissance de la compétence...
Mais qui ne sont pas insurmontables.
Oui.
On peut les surmonter.
Les surmonter si... Le gouvernement a pris des précautions sur certains points, pour certaines conventions. Attention, il y a certaines conventions. Par rapport au débat de 2006, j'ai tout le dossier, débat 2006, il y a des aspects qui pouvaient être contrôlés. Mais, pour le moment, soyons positifs. La bataille est lancée. Nous savons qu'il y a des obstacles. Voyons voir comment le gouvernement va contourner ces obstacles d'ordre juridique. Si nous franchissons la première étape, pour moi la deuxième étape est facile. L'étape des preuves, des massacres, des tueries, de la responsabilité de l'Ouganda, ça c'est facile.
Merci.
Il y a des documents à faire.
Merci.
Voilà ce que je peux faire.
Merci, professeur Tibankalala. Monseigneur Pax André Marie Kito Matimango, votre mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que par solidarité de toutes les victimes et le respect toutes les victimes de l'RDC, je pense que le gouvernement pourrait se rétracter de son action. Qui pertinemment, il sait bien que ça ne va aboutir à rien puisqu'il y a, il n'y a pas de droit nouveau par rapport à cela.
Merci.
Ça, c'est une des choses. On ne sait pas comprendre si hier, tu as accusé ton enfant qui l'a fui l'école et qui n'a pas été sanctionné, le lendemain, pour le même acte, tu l'accuses, il n'y aura pas de suite.
Merci.
Et plutôt, on doit mettre en place les chambres mixtes spécialisées pour donner réponse, pour résoudre la question de la compétence sur le sujet.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Tibankalala, Monseigneur Pax André Marie Kito Masimango et Rigan Miviri. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci à Donna Madimba et Benjamin Moudoumbi qui l'ont réalisé, à Patrick Kiasongwa et Jean-Claude Nsiala qui était à la technique. Chembe Eloku a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.